Et c'est l'heure de prendre des nouvelles du Canada francophone en compagnie de Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Julien, les animateurs culturels se demandent comment concilier identité francophone et diversité culturelle à l'école.
Bon, on a parlé à quelques-uns d'entre eux. Je me souviens plus si ça n'existait pas dans mon temps au Québec, là, mais dans les écoles du Canada français, il y a... Oui, c'est ça. En ce moment, il y a des ce qu'on appelle des animateurs culturels. C'est des employés des conseils scolaires qui ont la mission d'organiser des activités pour rappeler aux jeunes pourquoi ils parlent français dans une mère anglophone, puis pourquoi c'est ils vont en être fiers, puis pourquoi on le célèbre à certaines occasions. Mais il n'y a pas juste ça, là, on y organise aussi des pièces de théâtre, des petites tournées, des activités culturelles. On a parlé des animateurs culturels qui remarquent que les activités changent tranquillement. On inclut de plus en plus la diversité. On y reviendra, c'est normal dans ce qui se passe, avec ce qui se passe. Les activités qui soulignent la culture des nouveaux arrivants commencent à prendre plus de place que celle des cultures existantes, trouvent certains. Par exemple, il donne l'exemple du mois de l'histoire des Noirs qui constate qu'il est plus célébré que la journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Et aussi, dans un rapport qui a été publié en Saskatchewan, on indique que le basketball a remplacé le curling comme une des activités parascolaires. Il y a quand même d'autres animateurs culturels qui rappellent que, les écoles accueillent de plus en plus d'immigrants, de gens issus de la diversité, mais il faut qu'ils se sentent chez eux aussi si on veut qu'ils s'intègrent dans la communauté franco-ontarienne. Donc, il faut leur présenter des choses qui les concernent, des choses qui les intéressent. Ça reste important de leur enseigner la culture locale, de leur expliquer pourquoi on célèbre la francophonie comme on le fait. Puis souvent, ça les encourage à participer. Là, il y a un des personnes à qui on a parlé qui dit que lui, il n'y a jamais personne qui a refusé d'embarquer dans la culture quand on lui expliquait la situation.
Quand on comprend les choses, c'est plus motivant. Protestation contre les propositions de changement dans la réglementation d'utilisation des terres à... On dit-tu Claire ou Claire?
On dit Claire, oui.
C-L-A-R-E. C'est dans le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, il y a plusieurs résidents de cette communauté francophone-là dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse qui sont en colère, on peut le dire comme ça. En 2018, le gouvernement provincial a fait passer une loi qui oblige les municipalités à adopter des nouveaux règlements, à mettre à jour des règlements municipaux. Puis Claire est une des dernières et est en pleine planification pour se conformer à ces nouveaux règlements-là, cette nouvelle loi-là. Puis les résidents sont vraiment mécontents de certaines propositions. Parmi les propositions, par exemple, on dit qu'il y a une limitation sur l'autosuffisance alimentaire selon le type de terrain. Par exemple, il y a un nombre maximum de poules que les résidents peuvent avoir selon leur type de terrain. Il y a aussi certaines limites sur les jardins. Par exemple, il faut que ce soit dans une serre ou délimité par une clôture à une certaine distance de la limite du terrain. Mais ce que disent les résidents, c'est que les terrains de cette région-là sont longs et étroits, ce qui complique leur façon de respecter ces règlements-là, surtout pour la distance avec les limites. Il y a aussi des restrictions sur l'espace de stationnement pour les véhicules récréatifs. Et là, on parle de tente-roulotte ou d'un gros VR. Les résidents soulignent qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels dans la région, puis une roulotte sur le terrain, mais ça permet, oui, d'accueillir de la famille des fois, mais aussi peut-être de servir comme un Airbnb, là, accueillir des touristes dans la région. La firme qui a présenté les propositions continue de mener des consultations publiques pour recueillir les commentaires, là, donc c'est pas terminé, mais c'est le texte que j'ai lu, on m'a dit qu'il y a déjà eu des réunions très mouvementées sur le sujet. Celle qui a produit un texte était un peu plus tranquille, disons.
Et dans le droit, paraît-il que le Festival franco-ontarien a eu chaud?
Oui, le Festival franco-ontarien commence, c'est sa 50e édition. Mais la semaine dernière, le journal Le Droit a publié un texte qui disait que les organisateurs avaient reçu une fin de non-recevoir à leur demande de financement au gouvernement provincial. Donc, on avait demandé une subvention comme les années passées, puis on leur a dit non, on ne peut pas vous en donner cette année. Tout ça à quelques jours, quelques semaines du festival. Mais deux jours plus tard, finalement, après le texte du droit, Et après que la députée Lucille Collard est intervenue en chambre, le gouvernement a fait marche arrière et Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones, a annoncé qu'ils allaient donner 55 000 $ au festival finalement. C'était pas, oui, ça causait un problème, mais c'est pas leur seule source de financement. Ils ont aussi des commanditaires privés, mais sans la subvention, les organisateurs du festival s'inquiétaient de la pérennité de l'événement, surtout de l'achalandage. Ça pourrait provoquer une baisse de l'achalandage. Puis on se demandait si le gouvernement accordait vraiment une importance assez grande au festival franco-ontarien. Malgré la bonne nouvelle qu'ils vont finalement avoir de l'argent, ça fait plusieurs années que la subvention diminue. On dit qu'elle est passée en 2021, c'était 235 000 $ qu'ils ont eu. En 2022, c'est baissé à 185 000. En 2023, c'est baissé à 60 000. Et l'année passée, cette année, 55 000.
Oh! Descente vertigineuse entre 235 et 55. Il y a toute une différence.
Exactement. Tout ça pour le plus grand rassemblement francophone annuel à l'extérieur du Québec. Oui. Comme je disais tantôt, la députée d'Ottawa-Vanier, Lucille Collard, avait posé la question en chambre pourquoi il avait refusé de les financer. Puis bon, le ministre du Tourisme avait dit on a donné beaucoup d'argent dans le passé, mais le programme est compétitif, donc on n'a pas pu leur en donner. Bon, finalement, ils en ont eu et la députée dit qu'elle est heureuse de voir que son intervention a porté fruit, mais elle regrette que les francophones doivent toujours se battre pour obtenir l'appui qu'ils devraient avoir.
On souhaite un bon 50e au Festival franco-ontarien. Allez-vous y aller?
Peut-être que oui, justement à Ottawa cette semaine, je regardais ça, j'ai peut-être faire un tour.
Alors, bon festival. Dans On a le choix, on parle de Cornwall qui considère la formation universitaire.
Le conseil municipal a lancé un processus d'études de faisabilité l'année dernière pour voir si l'Université d'Ottawa, entre autres, pourrait offrir des cours dans la région de Cornwall. Le résultat est mitigé pour l'instant. Là, l'université semble soutenir que la ville pourrait avoir une petite université, mais qui a des défis à relever, comme le manque de logement, évidemment, comme partout ailleurs. Du côté de la francophonie, il y a un conseiller municipal, Fred Guinjo, qui soutient que les immigrants francophones ont, en ce moment, de la difficulté à se trouver un emploi. Il n'y en a pas assez d'emplois où ils pourraient parler seulement français. Puis ils quittent parfois la ville, même si il y a un programme communauté francophone accueillante à Cornwall. Puis, selon lui, un établissement postsecondaire ouvrirait plus de portes à ces gens-là. Par contre, il y a un autre conseiller, lui, qui rappelle que c'est des métiers spécialisés qui sont en demande en ce moment et souvent mieux payés. On devrait peut-être plutôt se concentrer là-dessus que sur l'université.
Les Françaisquois, eux, auront accès à des cours universitaires en français.
Et on reste dans le thème. C'est une bonne annonce qui vient d'un accord signé entre l'Université d'Ottawa et la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina. Il n'y aura pas de programme en français, du moins pour l'instant. C'est seulement des cours qui vont être offerts en français dans des programmes existants dans l'université. Notamment, on parle des domaines où la main-d'œuvre francophone est en forte demande, comme la gestion, la santé et l'éducation. On donne un exemple que l'annonce qui a eu lieu au début mai a déjà provoqué une hausse des demandes en sciences infirmières. Il y aurait eu 50 candidatures de plus que d'habitude. On espère agrandir l'offre de cours en français au fil du temps. Ça va être juste une première année cet automne. Puis avant cette initiative-là, les étudiants francophones de la Saskatchewan devaient aller soit en Alberta ou au Manitoba. Oui, il y en a qui allaient à l'Université d'Ottawa, mais justement l'université qui est présente pour la signature souligne qu'elle ne souhaite pas appauvrir la communauté francophone de la Saskatchewan. Donc, c'est pour ça qu'ils se lancent dans cette aventure-là.
Et on demeure toujours dans le thème de l'éducation. Cette fois-ci, vous nous parlez d'une poursuite pour obtenir une école en français à Fort Smith.
C'est mené par René Rogers et Geneviève Côté, deux maires de Fort Smith, qui est une petite ville des territoires du Nord-Ouest, là, collée à la frontière de l'Alberta. Puis on poursuit le territoire, le gouvernement territorial, devant la Cour suprême des territoires du Nord-Ouest pour obtenir un programme scolaire en français dans la ville. Il n'y en a pas en ce moment. Là, il y a un petit peu d'immersion, mais c'est pas idéal. Elle s'appuie sur l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit l'éducation en langue pour la langue de la minorité où le nombre le justifie. Pour l'instant, le gouvernement du territoire permet au conseil scolaire francophone d'opérer seulement à Yellowknife et Hay River, les deux plus grosses villes du territoire. c'est que la poursuite des deux maires demande de mettre fin à cette règle-là. Elles veulent aussi avoir un petit programme partiel dès septembre, et ça pour 3 ans pour quelques élèves, là, pour à peu près 3 classes regroupées, et que dans 3 ans, il y a vraiment une école à part entière qui peut accueillir jusqu'à 50 élèves. On veut aussi, évidemment, gymnase et transport scolaire et toutes ces choses-là. Elles sont convaincues que ça va être facile d'atteindre ce chiffre-là parce qu'il y a apparemment une bonne communauté francophone à Fort Smith. Apparemment, le conseil discute avec le gouvernement depuis au moins 2 ans pour avoir une école francophone à Fort Smith. Puis, au début, le gouvernement a l'air ouvert, mais finit par changer d'idée à la dernière minute. Puis, apparemment, c'est ce qui était arrivé encore ce printemps. C'est pour ça que les parents ont décidé de poursuivre. Donc, le conseil scolaire et du côté des parents aimeraient ouvrir une école. Puis les parents réclament aussi une compensation financière pour décourager d'autres violations de l'article 23 de la Charte.
Une nouvelle tirée de l'Aquilon. Là-dessus, je vous dis un gros merci, Julien. On se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.